Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur legraphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme. Bienvenue à tous. Jean-Noël avec vous pendant une heure pour cette émission de science. Juste après Vibra Soez, bien sûr, tous les samedis. C'est la grille de programmation qui vous permet d'écouter un petit peu de musique portugaise et puis juste après de vous informer sur l'actualité scientifique. Vous passez un bon samedi sur l'antenne de Graphite, voire aussi un bon mardi, car n'oublions pas que cette émission est également rediffusée tous les mardis matins à 10h. Biotine, tous les samedis, on s'arrête sur l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées. Voilà, on s'est dit, tiens, le 11 mai, on va décider que ça va être la journée mondiale des espèces menacées, et puis après, on n'en parle plus. Genre, on en parlera aujourd'hui, puis après, c'est terminé, c'est tellement pas important. Bref, le 11 mai 1938, c'est le début de la construction du canal Rhin-Danube. En 1960, le 11 mai, c'est l'autorisation de mise en vente de la pilule contraceptive aux États-Unis. En 1987, le docteur Bruce Reitz de l'école de médecine de l'université de Stanford réalise la première transplantation cœur-poumon à Baltimore. Le 11 mai 2005, c'est la découverte astronomique de la plus chaude planète connue à ce jour. On l'a appelée HD 149026b. Elle se trouve dans la constellation d'Hercule. Et enfin, il y a 3 ans, c'était le premier essai sur terrain de l'Hyperloop, ce moyen de transport futuriste dans le désert du Nevada. C'était une espèce de train qui va aller très très vite dans une espèce de petite gélule dans un boyau. Et c'est un petit peu notre transport, moyen de transport qui nous attend dans quelques années. Et les premiers essais ont donc eu lieu sur un terrain, en conditions réelles presque, le 11 mai 2016. Au niveau de l'éphéméride naissance, le 11 mai 1881 de Theodor von Karman, ingénieur et physicien hongrois. Il a été spécialisé en aéronautique dans les années fondatrices, c'est-à-dire dans les années 1940 à 1960. Il est personnellement responsable de plusieurs avancées crucial en aérodynamique, en particulier dans le domaine de la caractérisation du flux de l'air supersonique et hypersonique. Theodor von Karman, né le 11 mai 1881 et décédé en 1963. Et au niveau du 11 mai, au niveau de l'éphéméride, il y a le décès de Sir John Frederick William Herschel, mort le 11 mai 1871. Il était un astronome britannique. Il était aussi philosophe, physicien, météorologue et il compte parmi les pionniers de la photographie. En 1809, il entre à l'université de Cambridge et il propose son premier article de mathématiques à la Royal Society. Il n'eut jamais de poste académique, mais il consacre toute sa vie à la recherche privée. Il fit des recherches sur le daltonisme, sur les propriétés chimiques des rayons ultraviolets. Il a touché à tout, ce mec-là. Et en astronomie, il a découvert des milliers d'étoiles doubles, des nébuleuses également. Il invente également des instruments astronomiques. C'est une vie passionnante. Il a touché à plein de choses. Sir John Frederick William Herschel, né en 1792 et donc mort le 11 mai 1871. Astronome, entre autres, britannique. Voilà pour l'éphéméride d'aujourd'hui, pour ce 11 mai. Nous allons également tous ensemble compléter le tableau périodique des éléments, car l'année 2019 a été consacrée comme l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, donc il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas notre bonne action. Et aujourd'hui, je vous propose de compléter la case 47. Alors, je crois qu'on avait parlé de l'or il y a 2 semaines, il me semble. Eh bien, cette semaine, on va parler de l'argent, qui est malléable, qui est moins coûteux que l'or, bien sûr. L'argent est depuis longtemps utilisé comme monnaie d'échange sous forme de pièces, et c'est de cette utilisation que vient la signification moderne du mot « argent » pour qualifier, bien sûr, la valeur monétaire des pièces et des lingots qui représentent 20% de la production mondiale. L'argent est le métal possédant les meilleures conductivités thermiques et électriques. C'est également celui qui réfléchit le mieux la lumière, et donc ses qualités lui valent des applications variées et utiles, des miroirs, des soudures de diamants sur les outils industriels. Les pellicules photographiques qu'on appelait argentiques utilisent du nitrate d'argent qui réagit à la lumière et se décompose en imprimant l'image. Le métal le plus brillant également, c'est aussi un excellent bactéricide. C'est un matériau idéal pour les couverts de table ensuite. Il est utilisé pour l'argenterie, bien sûr. Près de 5% de sa production mondiale est consacrée pour l'argenterie, donc c'est quand même assez important. Ça vient du latin argentum, qui signifie blanc et brillant, d'où le nom qu'on a donc consacré à cet élément, l'argent, qui est le premier métal à être associé à la richesse depuis l'Antiquité. Il est peu réactif, il est l'un des rares métaux qui se trouve à l'état élémentaire dans la nature. L'une des formes minérales de l'iodure d'argent a une structure cristalline similaire à celle de la glace. Ces cristaux sont largués par des avions au-dessus des nuages, ce qui amorce la congélation de la vapeur d'eau, ce qui finit par tomber sous forme de pluie. Cela permet d'irriguer les terres agricoles asséchées, nous dit-on. Voilà quelques-unes des applications de l'argent. Le symbole chimique, c'est grand A petit G, et donc son numéro atomique et la case qui lui correspond, c'est la case 47. Voilà, on a bien rempli notre tableau, on est bien content et on va pouvoir commencer à plonger dans l'actualité scientifique. Alors aujourd'hui, on va parler de ces scientifiques qui veulent cloner un cheval vieux de 42 000 ans avec du sang liquide. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas de raison. Au niveau médecine, le lien qu'on aurait trouvé entre les cellules de notre cerveau et nos intestins. La NASA qui mise sur des robots gonflables pour aider les astronautes dans l'espace. On va aussi s'inquiéter de cette annonce suite un petit peu à ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, toujours au niveau de la pollution. Et là, on a des perturbateurs endocriniens et des pesticides qu'on retrouve dans nos rivières. Et puis, on va également parler du cancer du sein avec un antibiotique qui offre un nouvel espoir. Voilà, entre autres, un petit peu l'actualité qu'on va évoquer dans cette émission. Et on va retrouver, bien sûr, comme depuis quelques semaines, Anne Fleur, qui va nous parler des inventions du monde. Nous sommes allés à Boston, nous sommes allés à Sydney, et nous verrons cette semaine où est-ce qu'elle nous emmène. Peut-être pas si loin que ça, mais on verra ça au cours de cette émission. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de l'actualité scientifique et on écoute aussi un peu de musique. C'est tout le principe de Beauty In. À tout de suite. I can think stories, but mine are all written. I'll remember everything, I'm just pretending to be drunk. Struggling with my lying tongue, I know I always need an audience. I just listen dans tous les sens, et non de sens que celui qu'on leur donne. Chance to write a happy ending. I don't listen to you, you won't bypass the stream. Silence is unbearable, my mind is not as lost as you think. Mauvais virage pour ce saut de ligne, et le jeu arté devient il. To another, we are trapped in that wheel. There's no once and for all, there is no end
if this a thought leads to another, we are trapped in that wheel.
C'était Saut de ligne du groupe I Am Stramgram sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique et on s'intéresse un petit peu aux différentes découvertes qu'il y a dans les laboratoires, dans les différents domaines, bien sûr, scientifiques et techniques. Et puis on s'intéresse aussi à l'actualité sous une autre forme et notamment, là, on va s'intéresser à ce qui se passe avec Mark Zuckerberg, je vais y arriver, pardon, le patron de Facebook qui cherche un petit peu à redorer son image, hein, et aussi celle de Facebook qui est quand même depuis quelques mois au cœur de plusieurs scandales, les piratages de données, l'espionnage des utilisateurs, le partage de vidéos terroristes, bref, les couacs s'accumulent et donc le patron de Facebook a décidé de publier une tribune dans plusieurs journaux à travers le monde, dont notamment le journal du dimanche en France. Le patron de Facebook partage en fait quatre idées pour mieux réguler Internet, qui serait coupable de tous les maux, des contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée, la portabilité des données personnelles. Et pour cela, Facebook demande l'aide des gouvernements et des pouvoirs publics pour, je cite, « assurer la sécurité de notre communauté. Personne n'attend les entreprises qu'elles répondent seules à ces enjeux », dit-il. Alors, Mark Zuckerberg révèle ainsi que Facebook travaille avec les gouvernements et notamment avec les pouvoirs publics français dans le cadre d'un groupe de travail commun afin de garantir que nos dispositifs de modération des contenus soient efficaces. Alors, il propose de confier à des organismes tiers le soin de définir des standards sur la diffusion des contenus violents et haineux et d'évaluer les entreprises sur la base de ces standards. La régulation pourrait établir une base de référence de ce qui est interdit et exiger des entreprises qu'elles mettent en place des moyens pour réduire au maximum les contenus violents et haineux. Fin de citation. Alors pour les élections importantes, Zuckerberg estime que ces systèmes seraient plus performants si la régulation établissait des standards communs pour vérifier l'identité des acteurs politiques. Par ailleurs, il constate que certaines lois, dit-il, ne s'appliquent que pendant les élections, alors que les campagnes d'influence sont continue. À propos de la vie privée, Mark Zuckerberg est favorable à la mise en place d'un système mondial semblable à ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire le registre de gestion des données personnelles. Je pense qu'il serait bon pour Internet que davantage de pays adoptent une réglementation telle que le RGPD comme cadre commun. Ça fera évidemment sourire, bien sûr, parce que c'est justement pour l'utilisation des données personnelles que Facebook est pointé du doigt et même poursuivi actuellement actuellement par certaines actions en justice. Enfin, Zuckerberg soutient, je cite, un format standard de transfert de données ainsi que le projet Open Source Data Transfer Project. L'idée, en fait, c'est de permettre à un internaute de transférer facilement ses données personnelles d'un service en ligne à un autre. Cela exige forcément une union entre les différents géants du web, puisque l'idée de permettre de transférer, par exemple, ses données Facebook sur une autre application concurrente, par exemple Google ou Apple, sans être obligé de télécharger des archives. L'objectif commun de ces pistes, c'est de refaire l'Internet un espace qui, je cite, crée beaucoup de valeur dans la vie des gens. Bien, il essaye de redorer son image. C'est pas toujours facile en ce moment. Et en tout cas, voilà, il a diffusé cette tribune sur partout dans le monde, dans certains quotidiens. Pourquoi pas ? On verra bien sûr ce que ça donnera. Suffit d'être très vigilant et d'être très prudent. Au niveau médecine, cette annonce qui nous vient notamment de l'INSERM, pardon, avec, on s'est souvent posé cette question de savoir si il y avait un lien entre les cellules du cerveau et les intestins. Est-ce que notre second cerveau serait responsable de l'obésité ? Eh bien, Raphaël Morier, neurobiologiste à l'Université de Nantes, explique le lien qu'il vient de découvrir avec ses collègues entre le système nerveux entérique, qu'on appelle second cerveau, et l'obésité. Il y a quelques mois, une étude faisait état d'une connexion neuronale entre notre cerveau et nos intestins. Eh bien, aujourd'hui, il y a d'autres chercheurs de l'Université de Rutgers aux États-Unis qui semblent vouloir faire un lien nouveau entre ces deux organes essentiels à notre santé. Et ce seraient les cellules souches, ou plutôt une hormone essentielle au maintien des cellules souches, à la fois dans le cerveau et dans les intestins. Alors rappelons qu'une prolifération de cellules souches dans l'intestin peut conduire à l'apparition d'un cancer colorectal. Au niveau du cerveau, le phénomène peut provoquer des troubles de l'anxiété ou des troubles cognitifs. Et les chercheurs mettent aujourd'hui en avant l'importance d'un seul et même facteur de croissance analogue à l'insuline. La découverte qu'il existe un facteur commun à plusieurs populations de cellules souches adultes est remarquable. Ce nous dit-on dans cette article. Celui-ci serait ainsi essentiel à la fonction cognitive au sens de l'odorat et au renouvellement de la muqueuse de l'intestin grêle chez l'adulte. Et pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont travaillé avec des souris et ils ont en fait supprimé le gène qui était responsable de la production de ce fameux facteur de croissance. Une suppression rapide de ce gène a entraîné la mort des souris en une semaine après des pertes de poids spectaculaires. Une suppression plus lente du gène a permis aux souris de survivre. D'autres cellules souches présentes dans l'intestin y ont pris le relais. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Mais avec des déficits d'apprentissage et de mémoire, c'est pour ça qu'on a fait le lien entre les deux. Et c'est voilà une nouvelle découverte qui confirme ce lien entre les cellules du cerveau et nos intestins. C'est assez intéressant parce que ça va déboucher bien sûr sur des applications assez intéressantes en termes de thérapie par exemple. Donc on suivra ça, mais il y a de plus en plus de découvertes, notamment sur l'intestin, avec pas mal de pistes qui sont lancées. Il va falloir étudier tout cela et voir ce que ça peut nous donner. Mais voilà, il y a pas mal de choses dans ce domaine-là. C'est assez récent et c'est assez utile. Allez, on écoute un nouveau titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. On va peut-être retrouver après Anne Fleur, bien sûr, pour voyager un petit peu partout. On écoute Cockpit sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Thank you. Avalon, c'était le groupe Cockpit sur l'antenne de Graphite. Bonjour Anne-Fleur, c'est à toi.
Bonjour à tous et bonjour Jean-Noël. Alors après 2 semaines de vadrouille passées un petit peu partout dans le monde, entre l'Ouest puis plein Sud, entre Boston aux États-Unis et Sydney en Australie, nous voici de retour en Gaule, direction Paris. Alors quelles sont les inventions qui sont nées à Paris? Quelles sont les inventions qui sont nées en France ou même qui ont été améliorées? Eh bien c'est parti. La première dont je vais vous parler, c'est une start-up très connue, qui est connue d'ailleurs pour être une des licornes françaises. Une licorne c'est quoi? C'est une boîte qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. On a tous entendu parler de BlaBlaCar, le site de covoiturage. Alors pour la petite histoire, son cofondateur, Frédéric Mazzella, a en fait découvert le covoiturage aux États-Unis dans les années 90. À l'époque, il étudiait à Stanford en Californie. Et aux États-Unis, et notamment en Californie, c'est très courant d'avoir des files de voitures sur la route qui sont dédiées au covoiturage. C'est-à-dire que s'il y a moins de 2 personnes dans la voiture, on ne peut pas la prendre. Ces files avancent très bien, alors que le reste de la route est très souvent bouché à cause donc du trafic. À cause des bouchons, justement, il abandonne sa voiture lorsqu'il revient à Paris. Puis viennent les fêtes de fin d'année et Mazzella cherche un moyen de rentrer à tout prix voir sa famille en Vendée. S'offre alors à lui un train cher et franchement blindé. Il aimerait trouver une voiture qui fait son trajet, mais ne sait pas comment s'y prendre. Sa sœur sera finalement sa covoitureuse, mais il lui reste l'idée, vraiment, que le covoiturage doit être simple et que ça ne devrait pas se faire uniquement qu'en famille. Et c'est en fait le début d'une idée que nous connaissons tous sous la forme de BlaBlaCar. La seconde invention dont je veux vous parler, c'est l'éclairage public. Alors, retour en 1524 pour cette seconde invention. Saviez-vous qu'à l'époque, les habitants qui vivaient dans des maisons faisant face à la rue avaient l'obligation légale d'avoir une lampe dans le cadre de la fenêtre afin que les passants puissent voir dans la rue la nuit? Un siècle plus tard, les lampes à huile passent à la charge de l'État par un système de redevance. Et près de 300 ans encore plus tard, avec l'arrivée et la démocratisation de l'électricité, la ville de Paris fut la première au monde à installer les lampes électriques dans la rue. Alors la prochaine fois que vous rentrerez chez vous tard, remerciez la ville de Paris pour la lumière qui vous éclaire. Ah, cette troisième invention, on l'a tous bénie quand on était au lycée. On s'est aussi souvent demandé, mais pourquoi faire du calcul mental alors que quelque chose pourrait très bien faire le boulot à ma place? Vous l'aurez deviné, je vous parle de la calculatrice. Blaise Pascal est en fait l'inventeur de cette machine connue à l'époque sous le nom de machine d'arithmétique. En 1642, Pascal a voulu en fait soulager son père qui venait d'être nommé surintendant de Haute-Normandie par Richelieu. Son père devait ainsi mettre de l'ordre dans les comptes de cette province. L'invention de Pascal permettait alors d'additionner et de soustraire, mais aussi de faire des multiplications et des divisions. Et pour finir, passons à un sujet un peu plus léger. Je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous aujourd'hui, mais à Boston, c'est la catastrophe, on se croirait à la Toussaint, alors que c'est quand même le printemps. Si la plus ancienne référence au parapluie remonte au 1er siècle en Chine, où l'on décrivait un parapluie-parasol démontable fixé sur un chariot lors d'une cérémonie religieuse, il faudra attendre jusqu'à 1705 et un certain Jean Marius, un commerçant parisien, pour inventer un véritable parapluie. Quelques 40 ans plus tard, un certain Navarre imaginera à son tour le parapluie canne. Le parapluie deviendra alors un accessoire de mode à Paris, notamment pendant la Révolution française. Et pour la petite histoire, puisque les Anglais ne font jamais rien comme les autres, en Angleterre c'est l'effet inverse. S'il pleut, un bourgeois fait alors appel à sa voiture, alors que si l'on sort son parapluie, cela veut vraiment dire qu'on n'a pas les moyens de s'en payer une. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors on pourrait sans doute dédier une émission entière, honnêtement, à tout ce qui a été inventé ou amélioré à Paris, de la fameuse French Food à Doctolib, en passant par le cinéma ou la machine à coudre. Je peux pas vous parler de tout. J'espère que ça vous a plu tout de même et que vous aurez retenu que le parapluie, BlaBlaCar, la calculatrice et l'éclairage public viennent tout droit de la Cité des Lumières. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne-Fleur, mais écoute, tu reviendras pour nous reparler encore de ce qui s'est créé à Paris, bien sûr, il n'y a pas de raison. On continue à feuilleter l'actualité scientifique avec cette idée encore, je ne sais pas pourquoi les gens ont envie de faire ça, mais on nous dit qu'on va assister bientôt à la naissance d'un clone de cheval de 42 000 ans. C'est une annonce qui nous vient de Michil Yakovlev, qui est le directeur de la communication l'application de l'Université fédérale du Nord-Est de Yakutsk. Une équipe de scientifiques russes et sud-coréens vient, cette équipe, de procéder à la dissection d'un poulain retrouvé congelé. Il a été retrouvé l'année dernière et cette équipe compte utiliser ses cellules pour le ressusciter. Le projet serait tellement avancé que les chercheurs affirment être déjà à la recherche d'une mère porteuse. L'optimisme des chercheurs s'explique par l'état de préservation incomparable du poulain. Il s'agit de l'animal issu de l'âge de glace le mieux préservé au monde. Nous dit-on, le poulain est mort quelques jours après sa naissance, sans doute en se noyant dans la boue, et son appareil gastro-intestinal était rempli de limon. C'est une découverte exceptionnel. D'habitude, les animaux préservés dans la glace sont incomplets, déformés, complètement momifiés. Ici, même ses poils sont préservés, ce qui est incroyablement rare pour une découverte aussi ancienne. Le poulain qui vient de la race Lenskaya, une race éteinte il y a environ 4000 ans, provient du cratère de Batagaï dans la région de Yakoutie. Nous sommes en Sibérie. Et cette dépression impressionnante d'un kilomètre de long pour 100 mètres de profondeur abrite de nombreux restes spectaculaires d'animaux préhistoriques, des défenses de mammouths, des carcasses de rhinocéros laineux, des perdrix, des bisons et donc des chevaux congelés. Les scientifiques ont réussi à extraire des muscles rougeoyants, nous dit-on, et des vaisseaux sanguins qui contiennent du sang liquide. Nous avons même trouvé de l'urine dans la vessie. C'est l'urine la plus vieille du monde, nous dit cette équipe de chercheurs. Ces chercheurs qui vont du coup pouvoir procéder à une série d'analyses sur le taux de protéines, de glucose, l'hémoglobine, les leucocytes, le pH et ainsi de suite pour mieux connaître l'animal. Les deux équipes donc de scientifiques, des Russes, des Sud-Coréens, je vous l'ai dit, sont dirigées par le professeur Wang Woo-suk, déjà en charge de ressusciter le mammouth laineux à partir de spécimens retrouvés congelés également. Une perspective qui excite les scientifiques du monde entier. Un projet concurrent mené par George Church de l'université de Harvard aux États-Unis mise quant à lui sur l'édition génétique pour créer un hybride d'éléphant d'Asie portant quelques gènes de mammouth laineux. Des projets restés jusqu'ici sans succès. D'après le gouverneur de la province de Yakoutie, eh bien, le clonage du mammouth devrait être réalisé d'ici environ 10 ans, nous dit-on. Il devrait alors rejoindre le poulain cloné dans le futur parc zoologique préhistorique que compte créer ce gouverneur. C'est assez extraordinaire. Et qui serait donc peuplé d'animaux clonés d'après des spécimens retrouvés congelés, comme le lion des cavernes ou le bison. Ça devrait attirer les touristes dans cette région un petit peu reculée de Yakoutie. Voilà. Rien en revanche pour l'instant sur un retour du T-Rex, mais bon, on n'en sait rien, allez savoir. Mais voilà, des scientifiques veulent cloner un cheval vieux de 42 000 ans avec donc du sang liquide qu'on a retrouvé. C'est assez intéressant, c'est assez étonnant. C'est ça aussi la science et c'est ça aussi Biotine avec un peu de musique.
Watch the moans, the remains. With a buyer hands the chain. There she dances, there she moves. Behind in the distance, Baton Rouge.
lui dit à regret et à mesure que je bouge, il voit dans le lointain bâton rouge.
C'était Palatine avec Bâton Rouge sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite et vous avez bien raison. On se tient informés ensemble de l'actualité scientifique et on va s'intéresser à la NASA. Un groupe de chercheurs de l'université de l'Utah aux États-Unis se penche actuellement sur des robots gonflables et plus particulièrement un modèle qu'ils ont baptisé King Louis. Grâce à leurs nombreux avantages, ces mécanismes souples intéressent beaucoup la NASA qui finance en partie la recherche. En fait, ils sont composés d'un assemblage de tissus et de caoutchouc. Ils coûtent sont très peu chers en fait à produire. Ils sont faciles à réparer. Ils sont également très légers. Ils prennent peu de place une fois rangés. Bref, que des avantages. Le côté mou justement de ces robots gonflables offre également une sécurité pour les humains qui travaillent avec. Sans surface dure ni inertie, eh bien le risque de blesser quelqu'un ou d'endommager du matériel autour est très réduit. Malgré tout, ces appareils offrent une bonne vitesse de déplacement et peuvent être assez forts. Ils peuvent également prendre des coups, mais également en donner, comme frapper avec un marteau, sans risquer d'endommager leur mécanisme. Tous ces atouts en feraient donc des candidats idéal pour les missions dans l'espace ou sur d'autres planètes. Le problème avec ces robots est l'impossibilité de contrôler précisément les mouvements. Ils opèrent grâce à des chambres à air qui fonctionnent comme des muscles, mais cela crée des gestes difficiles à modéliser et souvent imprévisibles ou qui changent à chaque fois que le robot est gonflé, dégonflé, regonflé, ainsi de suite. Et donc, pour tenter de compenser tout ça, ils ont donc équipé ce robot King Louis de capteurs de mouvement, ce qui permet d'avoir un retour sur la position et l'angle des différentes parties mobiles. Mais bon, ça suffit toujours pas, nous dit-on. Les chercheurs utilisent actuellement un système de retour visuel en guidant les membres mobiles jusqu'à la position qu'on souhaite avoir. Cela signifie que ces robots souples ne peuvent pas fonctionner pour l'instant de manière autonome, mais pourraient être utilisés pour assister des astronautes qui les guideraient dans leurs tâches. Mais voilà, c'est assez intéressant, ces robots gonflables qui intéressent beaucoup la NASA et qui pourraient donc aider les astronautes dans l'espace. On va revenir plus sur Terre avec l'ONG Génération Future qui a utilisé les relevés d'observation de la qualité des cours d'eau et ils ont remonté jusqu'à 2015 pour avoir les données les plus complètes possibles pour la France métropolitaine, la Martinique et la Réunion. Et cette ONG a trouvé, je cite, un total de 232 substances actives de pesticides ou de métabolites perturbateurs endocriniens suspectés, recherchés au moins une fois dans un département, avec en moyenne 41 substances actives pouvant être des perturbateurs endocriniens par département, selon donc un communiqué diffusé il y a quelques jours. Les trois substances qui arrivent le plus fréquemment en tête sont le glyphosate, l'atrazine déséthyle, l'atrazine c'est un désherbant qui est interdit depuis 2003, mais on l'en trouve quand même dans les rivières, et la troisième substance c'est le métolachlore, un herbicide. L'association a dressé une série de cartes que vous pouvez consulter sur le site et qui montre les départements les plus touchés. En fait, les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des mélanges chimiques capables d'interférer avec le système hormonal. Ils peuvent avoir des effets négatifs sur la croissance, la fertilité, le comportement et être à l'origine de certains cancers. Ces substances peuvent être présentes dans des détergents, des plastiques, des cosmétiques, des textiles, des peintures et des pesticides. Et pour cette étude, l'ONG Génération Future s'est basée sur une base de données qui répertorie les molécules suspectées d'avoir un effet de perturbation endocrinienne. Et cette documentation est considérée par l'ONG comme la plus complète, en l'absence en fait, de liste officielle des perturbateurs endocriniens. En janvier de cette année, le gouvernement a présenté un plan pour lister d'ici 2021 les perturbateurs endocriniens classés en trois catégories: suspectés, présumés et avérés. Et un mois auparavant, l'Union européenne avait adopté des critères de définition des perturbateurs endocriniens avec des années de retard. Pour les ONG, en fait, les critères retenus sont jugés trop restrictifs, puisqu'il faut non seulement démontrer qu'une substance est un perturbateur endocrinien et qu'elle a des effets négatifs, mais aussi démontrer son mode d'action. Donc, en fait, pour pouvoir qualifier une substance de vraiment étant comme un perturbateur endocrinien, il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup d'éléments, si bien qu'il y a certaines substances qui ne sont pas qualifiées comme telles et qui sont quand même suspectées d'être un petit peu dangereuses, mais qui ne font pas partie de cette liste. En tout cas, cette ONG de Génération Future montre qu'il y a énormément de perturbateurs endocriniens et de pesticides dans nos rivières et que l'on retrouve encore un désherbant qui est interdit depuis plus de 15 ans dans les rivière. Vous pouvez consulter le site de Génération Future, pardon, au pluriel, pour en savoir plus si vous souhaitez consulter cette carte. Voilà, c'est encore deux petites informations qu'on vient d'évoquer comme cela. Et on va se retrouver juste après un autre titre et on va parler de cet antibiotique qui offre un nouvel espoir en ce qui concerne le cancer du sein. A tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Everybody's a dreamer. Everybody's a star. Everybody's in movies. It doesn't matter who you are.
On écoutait les Kings, on se foutait pas mal des avions. Elle avait une peau terrible sur la route du col du Pion. Et puis là, sous les étoiles, on était sortis de la bagnole. Ça caillait un peu comme à Varsovie. On s'était mis à danser. On avait des étoiles plein la gueule, moi j'avais le cœur un peu serré. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon premier amour qui s'offrait, qui s'offrait, qui s'offrait sa dernière cigarette. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon premier amour qui s'offrait, qui s'offrait, qui s'offrait sa dernière cigarette. La cigarette du condamné.
hier. Mon premier amour qui s'offrait, qui s'offrait, qui s'offrait sa dernière cigarette. Oh, 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 oh. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon premier amour qui s'offrait, qui s'offrait, qui s'offrait sa dernière cigarette. La cigarette du condamné.
La cigarette du condamné, c'était Fabian Tarin sur l'antenne de Graphite. On continue tous ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Et je vous le disais juste avant d'écouter ce titre, qu'il y a différents traitements efficaces contre le cancer du sein. Peut-être quels sont-ils ? Ce cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2012, environ 48 000 personnes ont développé ce cancer et près de 9 personnes sur 10 en ont guéri. Les hôpitaux universitaires de Genève expliquent que, notamment dans une vidéo, comment se déroule le traitement. Pour en savoir plus, vous pouvez voir ça, notamment une vidéo sur le site internet des hôpitaux universitaires de Genève. Le cancer du sein est un cancer agressif qui touche souvent des femmes jeunes. Son appellation vient du fait que on parle de cancer du sein triple négatif, dans le sens où les cellules ne présentent à leur surface aucun marqueur connu pour une thérapie ciblée. Et donc ce cancer, qui est difficile à traiter, représente 15% des cas de cancer du sein et tuerait 200 000 femmes par an dans le monde, d'après donc un communiqué de l'Université de Genève. Et les chercheurs donc des universités de Genève et de Lausanne ont voulu bloquer une voie de signalisation qui est activée dans le cancer du sein triple négatif. En s'appuyant sur des travaux précédents, ils ont testé un antibactérien qui s'appelle la clofazimine. C'est un antibactérien utilisé depuis longtemps pour lutter contre la lèpre. C'est un vieil antibiotique tombé dans le domaine public, qui est un médicament peu coûteux. Et on s'est rendu compte que in vivo, donc quand on a pu faire des traitements directement sur les patients, on s'est rendu compte que la clofazimine, j'y arrivais, bloque la progression du cancer du sein. Notamment, on a fait des études sur la souris et on s'est rendu compte que ça pouvait bloquer justement cette progression. L'antibiotique qui agit en bloquant justement la voie de signalisation serait encore plus efficace s'il est administré avec une molécule utilisée en chimiothérapie qui s'appelle la doxorubicine. La clofazimine agit comme inhibiteur de la voie de signalisation. La cellule malade ne peut plus se diviser, mais elle ne meurt pas. Et donc, si on rajoute ce doxorubicine, eh bien, ça tue les cellules qui sont arrêtées dans leur croissance. C'est une combinaison d'une efficacité redoutable. C'est ce qu'explique Alexei Koval, chercheur à l'Université de Genève. Cette étude est donc parue dans la revue Cancer Letters, qui suggère que des médicaments connus depuis longtemps pourraient être réévalués. L'utilisation de médicaments déjà autorisés est une piste intéressante, car ils ont déjà subi des tests pour leur mise sur le marché. Donc on gagne du temps, bien sûr, et ça permet d'accélérer donc leur utilisation également pour d'autres pathologies. Mais voilà, il y aurait une piste intéressante avec un nouvel espoir, avec cet antibiotique dans le cadre de certains types de cancers du sein. Et c'est pas la première fois, en fait, que dans le cadre du cancer, on essaye de tester, on voit des nouvelles voies thérapeutiques avec d'autres antibiotiques, des antibactériens. Et là, c'est encore une nouvelle annonce qui vient d'être faite. Il faut bien sûr essayer de généraliser tout cela, mais pourquoi pas. On suivra ça, bien sûr, dans les prochaines émissions. Parce que ça va pas mal communiquer, à mon avis, sur ce sujet-là. Au niveau... on ne parlait aucune transition, d'ailleurs, je ne cherche plus à en faire dans cette émission. On va parler d'un clavier pour ordinateur anti-faute d'orthographe. Ça serait génial, ça, d'avoir un clavier anti-faute d'orthographe. Alors, on a les claviers QWERTY, on a en France, nous, plutôt le clavier AZERTY. Eh bien, est-ce qu'on va trouver bientôt un nouveau clavier qui s'appelle Bepo dans le commerce ? C'est possible, puisque c'est ce que recommande l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation, qui vient de rendre ses conclusions dans une étude entamée il y a maintenant 4 ans et qui a été commandée par la Délégation générale à la langue française aux langues de France, qui est sous la tutelle du ministère de la Culture. C'est donc quelque chose de très sérieux et l'objectif, c'est de créer un clavier informatique spécialement dédié aux Français et ses spécificités comme les accents, les caractères spéciaux ou encore les majuscules accentuées. Le but, en fait, ça serait d'améliorer l'orthographe et de déjouer les subtilités de la langue française. Dans son rapport, l'AFNOR propose donc deux types de claviers, l'AZERTY amélioré et le BEPO. Alors, comme son nom l'indique, l'AZERTY, ça reprend bien sûr les lettres A-Z-E-R-T-Y sur la première ligne. Et il y a quelques modifications qui sont apportées pour l'AZERTY amélioré. Et on a également des nouveaux, comment dire, des touches qu'on utilise comme le CCDI. Voilà, on utilise ça qu'en France, le CCDI, il me semble. En tout cas, voilà, on a essayé de pouvoir les positionner d'une façon un petit peu plus intéressante. Ça, c'est l'AZERTY amélioré. Et on a créé le BEPO. Le BEPO, lui, il propose de changer l'ordre des touches du clavier. C'est évidemment très déroutant au départ. Il est encore très confidentiel, hein, ce nouveau clavier, même s'il est apparu il y a plus de 15 ans. C'est ce type de clavier qui serait donc, selon l'AFNOR, hein, l'Agence française de normalisation, reconnu comme proposant, je cite, « la disposition la plus ergonomique et efficace possible pour la saisie du français ». Et aussi pour la programmation. Dans son rapport, l'association précise bien qu'il s'agit d'une recommandation et de normes et que la balle est désormais dans le camp des fabricants pour proposer de tels claviers. Mais donc voilà, l'ordre des lettres est totalement inversé, enfin en tout cas modifié par rapport au clavier habituel. Mais on considère qu'avec ce clavier, il y a des touches qu'on utiliserait beaucoup plus souvent avec les accents, les majuscules accentuées et certaines lettres, voilà, que l'on pourrait utiliser d'une façon totalement ergonomique, c'est-à-dire qu'on a différentes touches pour le A avec l'accent, le E avec l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe. Tout ça, c'est sur des touches spécifiques. C'est donc le nouveau clavier BEPO qu'on considère comme étant le clavier anti-faute d'orthographe et qui va peut-être bientôt, être proposé quand on va acheter bientôt un ordinateur. Allez savoir, vous pouvez regarder sur un site internet à quoi ressemble ce clavier BEPO. C'est vrai que c'est assez déroutant au départ, on est certain qu'on va faire des fautes d'orthographe au départ, mais bon, suffit juste d'avoir la main et de s'habituer. Et peut-être qu'avec nos téléphones portables, on a la possibilité maintenant d'installer ce fameux clavier BEPO. Tiens, il faudra qu'on essaye pour voir si c'est vraiment aussi efficace que ça en a l'air. Allez, on écoute un dernier titre parce que c'est bientôt la fin de cette émission et on se trouve juste après pour terminer cette émission de biotine sur l'antenne de Graphite. A tout de suite.
Souvent
C'était Rue des Étoiles d'Adrien Soleiman sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on va terminer cette émission parce qu'on arrive déjà à la fin, il est presque 13h, avec ces résultats qui pourraient servir de point de départ pour agir à l'avenir sur le déclin cognitif lié à l'âge. Ce sont des chercheurs américains qui ont publié leurs travaux dans la revue Nature Now Science qui nous parle. La mémoire de travail, en fait, c'est une mémoire de court terme. Elle ne permet pas de se souvenir d'événements du passé, mais c'est plutôt celle, la mémoire du travail, qui par exemple permet de garder en tête les chiffres d'un numéro de téléphone qu'on est en train de noter. Et on pense que cette forme de mémoire est liée à deux types d'ondes cérébrales, les ondes gamma et les ondes theta, qui se trouvent dans deux régions distinctes de notre cerveau. Et donc les chercheurs Robert Reinhardt et John Nguyen ont étudié 42 adultes âgés de 20 à 29 ans et un autre groupe de 42 adultes âgés de 60 à 76 ans, et ils les ont soumis à des exercices impliquant la mémoire de travail, par exemple identifier les différences entre des images qui sont présentées à quelques secondes d'intervalle. Ils ont utilisé un casque à électrodes pour évaluer la façon dont les fameuses ondes interagissent dans ce processus, et toujours au moyen d'électrodes, ils ont stimulé le cerveau de certains des participants en modulant le rythme des ondes. Et sans cette stimulation, les sujets les plus âgés étaient plus lents et moins performants, mais avec la stimulation, eh bien, leur performance se rapprochait de celle des plus jeunes, un effet qui se prolongeait plus de trois quarts d'heure après. Ces améliorations étaient liées à de plus fortes interactions entre les ondes θ et gamma dans une zone du cerveau et à une plus forte synchronisation des ongles θ dans une autre partie du cerveau. Bref, des experts indépendants qui n'ont pas participé à l'étude ont salué des travaux intéressants, dit-il, qui pourraient contribuer à mieux comprendre le déclin cognitif lié à l'âge. Pour autant, ils ont relevé certaines limites. D'abord, les sujets les plus âgés inclus dans l'étude étaient en bonne santé et n'étaient pas touchés par une démence comme Alzheimer. Bref, il faudrait des recherches supplémentaires et pour savoir si ce type d'approche peut à terme bénéficier à des patients atteints de démence. Par ailleurs, il n'y a pas de preuve que le type d'amélioration atteint grâce à cette stimulation puisse faire une vraie différence dans la vie quotidienne. Ok, il y a des sceptiques, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez intéressant. Il va falloir revoir cette étude, l'approfondir et avoir un panel quand même de personnes qui y participent un petit peu plus important, parce que là, on était quand même avec moins d'une centaine de personnes. Mais en tout cas, on considère, avec les résultats de cette étude, qu'on pourrait, beaucoup de conditionnels bien sûr, rajeunir la mémoire avec des stimulations électriques au niveau du cerveau. C'est encore des pistes assez intéressantes dans la lutte contre certaines maladies neurodégénératives. On pense bien sûr à Alzheimer. C'est la fin de cette émission Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous vous en remercions. On essaye de faire notre maximum pour vous proposer une émission, des émissions de qualité pour tous ceux qui vous proposent, voilà, et animent les émissions sur l'antenne de Graphite, émission que vous retrouvez bien sûr sur le site internet graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé grâce au podcast, et à ceux qui nous écoutent sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. C'est la fin de cette émission, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de science avec Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. On se retrouve samedi prochain, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir, merci.